Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers auditeurs et auditrices, popologues, popophiles, popovores de tout poil, nous voici dans une nouvelle émission donc du podcast Pop en stock, dévolu à l'étude de la culture populaire, contemporaine et l'archéologie du contemporain, dans notre nouvelle formule qui nous permet aujourd'hui d'avoir le plaisir de recevoir de Belgique Laurence Boudard, autrice d'un merveilleux petit livre intitulé « Martine, une aventurière du quotidien ». Consacré à la figure bien connue de l'héroïne éponyme dans une collection que nous aimons beaucoup, La Fabrique des héros. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous être prêtée à l'entretien. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené vers Martine? Est-ce que vous aimiez déjà Martine dans votre enfance? Comment ça s'est passé?
J'étais une lectrice pas forcément assidue, mais enfin j'aimais le personnage de Martine. J'avais des albums à la maison. Et j'aimais les lire et surtout les relire, en fait. Il y avait à chaque fois un plaisir renouvelé à chaque nouvelle lecture de l'album, comme si on retrouvait, en fait, j'y ai réfléchi par la suite, évidemment, mais je me suis dit que sans doute il y avait ce plaisir de la familiarité retrouvée, de se retrouver comme avec une amie, finalement, relisant les albums. Et beaucoup plus près de la réalisation du projet, je connaissais la collection La Fabrique des héros, et puis en discutant avec les responsables, Tanguy Abran et Dick Tomasovic, je leur ai suggéré en fait l'idée de leur proposer un titre consacré à Martine, et ils ont adhéré immédiatement en fait à l'idée.
C'est voilà. Une super idée parce que effectivement dans la collection, si on voit le catalogue, Martine fait suite à Jack Sparrow, Nosferatu, Batman, Maigret, Astro Boy, Barbarella ou Sherlock Holmes et bien d'autres. En fait, c'est vraiment très sympa que Martine ait pris sa place là-dedans. Entre les lectures d'enfance et ce projet, Martine avait disparu ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous songiez?
Non, Martine avait disparu. Par contre, ce qui n'avait pas disparu, ou plutôt ce qui s'est affiné entre mes lectures d'enfance et aujourd'hui, ou hier, disons, hein, ou avant-hier, ce qui s'est affiné, c'est mon intérêt pour la littérature de jeunesse et en particulier pour ces histoires qui façonnent finalement une forme d'enseignement ou de formation de l'enfance et de la jeunesse. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la littérature jeunesse, mais par contre, j'ai fait une thèse de doctorat sur des manuels scolaires. Et donc, il y a malgré tout quelque chose de commun, je pense, en tout cas des ponts qui peuvent être tissés entre le discours scolaire, ce qui moi m'a intéressée dans la perspective de ma thèse de doctorat, et l'analyse de comment ce discours scolaire se construit et comment finalement on fait passer certains messages et on formate aussi la lecture du monde des enfants, et puis cette littérature pour l'enfant.
Oui, absolument. D'ailleurs, vous êtes donc directrice aux archives et musées de la littérature. C'est quoi exactement? C'est un beau projet, le musée de la littérature.
Oui, c'est un très beau projet, en effet. Je suis très, très fière de pouvoir en être la directrice. Donc, c'est une institution patrimoniale et scientifique qui est située à Bruxelles, qui existe depuis 1958 et qui se consacre à rassembler tout ce qui concerne donc les traces archivistiques, donc toutes sortes de documents, manuscrits, mais également d'autres types de supports, des photos, des enregistrements sonores, des livres, bien entendu, des revues, autour du patrimoine littéraire belge francophone et de la vie théâtrale également. Donc des fonds d'écrivains, en gros, des fonds de théâtre, des fonds de personnes liées au monde du théâtre ou de l'édition également. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on les conserve, hein, donc dans une perspective archivistique, puis on les fait vivre aussi à travers des expositions et à travers tout un développement scientifique de recherche autour de cette matière, je dirais, patrimoniale.
Est-ce que la bande dessinée a une place, mais aussi la littérature populaire, disons plus largement?
Alors, la bande dessinée, non, parce qu'il y a à Bruxelles un autre centre de la bande dessinée. Et puis la bande dessinée fait aussi partie de ces sujets qui se monnaient très bien aussi auprès de collectionneurs privés. Donc, ils sont moins conservés finalement de manière massive, je dirais, dans des institutions publiques, puisque les archives et musées de la littérature est une institution, si pas publique, en tout cas, qui fonctionne avec des fonds publics et a vocation de service public. Donc, on n'a pas de bande dessinée et on a un tout petit peu de littérature jeunesse, mais pas encore beaucoup. Là, par contre, c'est un terrain que peut-être à l'avenir, on continuera d'investiguer, en tout cas, ou d'y intéresser de manière un peu
mais
plus
oui, mais surtout, est-ce que vous allez faire une place à Martine, justement, au fond de...
Alors, les archives, donc Martine avait été édité, enfin, est toujours d'ailleurs aujourd'hui édité par Casterman, hein, qui est la grande maison consacrée à l'édition jeunesse depuis de très nombreuses années en Belgique. Et les archives de Martine, enfin, les archives de Casterman, en tout cas, parmi lesquelles se trouve celle de Martine, ont déjà été déposées aux archives de l'État. C'est déjà fait ailleurs, mais c'est très bien, c'est conservé dans une institution publique, donc c'est important.
Oui, parce que c'est un des premiers paradoxes autour de Martine, c'est que c'est une création belge, et je pense que le fait que vous l'évoquez par moment, l'inscription assez hexagonale de certains voyages, de certains réalia, des faits de réel et tout ça, associe plutôt Martine à l'univers de la France, mais un peu comme toute cette longue histoire de la littérature populaire franco-belge, il y a un peu un contour un peu flou et un peu une annexion française. On l'associe plus en fait à la France.
Oui, bah c'est un petit peu une histoire qui se répète hein, finalement, et ça ne concerne pas uniquement la littérature pour la jeunesse, c'est finalement toute la littérature belge et une bonne partie finalement de sa production culturelle aussi, qui est à certains moments assimilée, belge je veux dire, qui est assimilée à la France. Martine s'inscrit néanmoins dans une tradition picturale, je dirais, et du dessin et de la tradition du dessin pour l'enfance qui était déjà bien installée en Belgique. Il suffit de penser à Tintin, au journal de Spirou et toutes les émanations liées à ces deux grands axes, on dirait, de en tout cas de la bande dessinée, mais c'est vrai que malgré tout, le monde, le microcosme, je dirais, belge, et en tout cas le lectorat belge, francophone en plus, est trop petit pour constituer un marché en tant que tel, et donc très naturellement, les productions belges doivent se tourner vers le marché français. Et donc ça provoque à certains moments effectivement un effet peut-être de gommage des réalités belges au profit de réalités françaises, ou en tout cas, et c'est un petit peu ce que j'ai repéré, me semble-t-il, dans le cas de Martine, si pas d'un gommage, en tout cas d'une espèce de flou volontaire sur le lieu où Martine habite vraiment.
Absolument, c'est des pages très réjouissantes. Le livre au complet est très, très réjouissant pour tous ceux qui connaissent Martine. Et souvent, à cause de... Pour moi, c'était particulièrement sympathique, étant donné que c'est des choses que je lis à ma fille et sur lesquelles je réfléchis quand même en même temps qu'on les lit. Et effectivement, je m'étais posé cette question-là parce que je me disais, elle n'habite pas à Paris, malgré le fait qu'elle perd son chien dans une ville, mais... Bon, c'est plutôt une ville de province.
C'est une ville de province qui a un métro, enfin en tout cas qui a des tunnels un peu.
Oui, c'est difficile. Voilà, c'est une nouvelle. C'est ce qu'on associe aux nouvelles villes de province avec leur métro, comme il peut y avoir dans certaines villes de province. Mais en même temps, c'est un peu Paris, mais c'est pas non plus tout à fait Paris. C'est très particulier. Et Bruxelles, c'est pas non plus tout à fait Bruxelles. Et puis par ailleurs, elle est quand même beaucoup dans une sorte... Bon, elle est beaucoup à la campagne. Ils achètent d'ailleurs en 1970, dans Martine embellit son jardin, ils achètent une maison à la campagne, mais on l'a déjà vue à la campagne plusieurs fois. Et par ailleurs, elle est un peu dans une sorte de banlieue, mais de banlieue champêtre, pas la proche banlieue, mais une sorte de lointaine banlieue. Donc effectivement, ça correspond mal à la géographie, et surtout, comme vous le signalez aussi, ça ne correspond pas du tout à l'évolution des environnements urbains et périurbains entre les années de sa création. Mais ça a peut-être contribué, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans la bande dessinée franco-belge, ça a un peu contribué à un discours assez curieux de l'universalisme, c'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, ces effets de gommage font que ça a pu contribuer à un des effets que vous signalez, qui est cette sorte de permanence, un peu hors du monde, hors du temps, ces deux expressions que vous utilisez. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on en arrive à cet effet-là, qui est par la suite devient une esthétique dans Martine.
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est difficile de savoir si c'est un effet calculé, voulu, stratégiquement pensé au fil du temps par les créateurs de Martine, ou bien si c'est plutôt quelque chose qu'ils ont mis en place de manière, je dirais, un peu intuitive, c'est-à-dire peut-être qu'ils ont
tout simplement voulu faire de leur héroïne un personnage atemporel, éternel. Alors c'est très paradoxal parce qu'en même temps, elle est très ancrée dans son temps, dans son époque. On aura peut-être l'occasion d'en parler oui. par d'autres signes visibles. Mais en effet, il y a une sorte de floutage volontaire sur les lieux effectivement où elle habite, que ce soit... la difficulté de les identifier géographiquement. Et pourtant, là aussi, c'est un peu paradoxal parce qu'il y a des tas d'indices qui sont glissés à droite et à gauche. Il y a certains endroits qui sont clairement reconnaissables et puis d'autres qui restent dans une espèce d'indéfinition. Et donc, je pense que c'est un des éléments, en tout cas, qui a contribué à faire en sorte que Martine puisse traverser le temps, traverser les générations, traverser les modes et aussi traverser les lieux. Hein, vous faites référence entre le pont presque naturel entre la France et la Belgique, mais Martine a aussi été traduite dans plus de 30 langues dans oui. le monde, été diffusée dans des tas de pays à travers le monde et avec un succès variable qui n'est sans doute pas de l'ordre de celui qu'on connaît dans les albums originaux en langue française, mais il n'empêche que c'est un personnage qui existe et qui a eu sa fortune et qui continue à avoir sa fortune littéraire dans d'autres langues. Donc ça veut dire qu'il y a une plasticité chez le personnage qui permet justement son identification en dehors même des frontières du monde francophone européen, je dirais.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, bon, vous évoquiez tantôt la question donc, de la francophonie en Belgique, etc. Ce n'est jamais évoqué qu'il y a un monde plurilinguistique. Il n'y a jamais un contact avec cette autre réalité. Ce qui d'ailleurs est quelque chose que parfois on retrouve dans la bande dessinée franco-belge. Parce que soit ça devient un objet de transfiguration, comme dans les Schtroumpfs à un moment, soit ça devient, au fond, au sens étymologique, d'utopie, de non-lieu. Et dans Martine, il y a quelque chose d'utopique, comme vous le remarquez, idyllique, pastoral, voire utopique. Alors effectivement, donc la saga, elle commence en 1954 et elle va se poursuivre, elle se poursuit encore, mais elle est surtout identifiée à son illustrateur et non pas à ses scénaristes, donc son illustrateur Marcel Marlier, qui est un peu l'auteur, enfin, c'est la figure auctoriale à laquelle vous revenez le plus souvent, et c'est aussi sans doute l'immense travail d'illustrateur qui a garanti le succès à travers le temps de la série. Mais donc 1954, et donc c'est vraiment un contexte tout à fait particulier que vous évoquez à plusieurs reprises. C'est le paradis perdu, en quelque sorte, des baby boomers et des 30 glorieuses.
Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a deux éléments qui se conjuguent d'ailleurs hein, et qui sont liés l'un à l'autre, qui s'associent pour porter de manière très positive dès l'entrée, finalement, Martine, sur ses fonds baptismaux. D'une part, c'est effectivement le fait qu'on est à une génération où il y a... 1954, donc les enfants du baby-boom qu'on estime nés à partir de 45 grosso modo, constitués déjà en 54, ils ont 9 ans, les premiers d'entre eux, et c'est une cohorte très importante finalement de jeunes lecteurs. Et donc ça représente une véritable aubaine finalement pour les maisons d'édition, parce que ce sont des enfants qui non seulement sont nombreux, mais en plus sont déjà passés par les bancs de l'école. Il y a une éducation qui est généralisée. On n'est plus comme au début du siècle, où ça peut encore être moins défini en tout cas. Là, on a vraiment des enfants qui sont assoiffés de lecture et assoiffés de lecture qui s'adresse à eux. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est favorable à Martine, c'est que d'un seul coup, tout se passe comme si d'un seul coup, tous les produits commerciaux dans lesquels finalement l'édition et l'édition pour la jeunesse s'inscrit aussi d'une certaine manière, prenaient conscience qu'il y avait à côté de 50% de population masculine, aussi 50% de population féminine. C'est-à-dire que la femme, en tant que personne à laquelle on peut s'adresser en tant que consommatrice finalement, commence à exister vraiment. Alors, elle a déjà existé à travers la mode, depuis le début du siècle, mais là, véritablement, on commence à s'adresser à elle, et je pense qu'il y a ce phénomène-là qui aussi facilite finalement l'encouragement à la création d'une héroïne comme Martine, parce qu'on s'adresse, alors bien sûr, il y a aussi des petits garçons qui lisent Martine, mais on s'adresse surtout à un lectorat féminin avec une manière de s'adresser, dont on pourra parler également, à ce lectorat particulier. Et puis, il y a un autre phénomène qui est, lui, plus, je dirais, lié à la vie éditoriale en tant que telle et au contexte légal également dans lequel on souhaite encadrer cette vie éditoriale, c'est qu'il y a une loi qui est promulguée en 1949 en France et qui vise à donner un cadre moral respectueux, je dirais un peu propre, aux productions pour la jeunesse. Alors ce sont, d'après les études que j'ai lues à ce propos pour rédiger le livre dont on parle aujourd'hui, il semblerait que c'était surtout les comics américains qui étaient visés par cette loi, où il y avait de temps en temps voilà, une certaine débauche, une sorte d'encouragement au crime. Enfin, en tout cas, les héros pouvaient être des criminels et ça ne gênait pas la production, etc. Et donc, tout ça gêne un peu visiblement le législateur français. Et donc, il y a une loi qui est promulguée et qui va de fait, par l'éviction d'un certain nombre de ces comics américains qui étaient dans les kiosques, eh bien par effet de compensation, je dirais, va favoriser l'édition en français pour l'enfance ou la jeunesse. Et donc Martine naît vraiment dans ce contexte tout à fait particulier. Le baby boom, la prise de conscience d'un lectorat féminin à qui on peut s'adresser, et puis une société de consommation qui est avide d'offrir de nouveaux produits.
Oui, tout à fait. Et aussi, à différentes reprises, il y a une sorte d'équilibre qui se crée entre un certain conservatisme, un certain conformisme, l'image de la petite fille sage, toujours propre, qui obéit à ses parents, etc., etc. Mais aussi, d'un autre côté, une fascination pour le monde de l'enfance comme univers des possibles. C'est une grande époque, le baby boom est une... et pas seulement quantitatif, c'est-à-dire que ce n'est pas juste que ce sont des grandes cohortes tout à coup qui transforment un peu l'équilibre des générations, mais c'est aussi un projet qui en soi est assez utopique parce que c'est la nouvelle pédagogie qui se crée à ce moment-là et qui fait de l'enfant une promesse de transformation sociale. C'est vraiment un moment où on rêve et c'est pour ça que c'est assez fascinant dans Martine. Et comme vous le montrez, je pense que ça fait vraiment partie inhérente de son charme, c'est que ça correspond à ce moment quelque peu utopique des Trente Glorieuses. De la même façon qu'il y avait eu une sorte d'utopie avec le Front populaire et avec cette idée, les congés payés, etc., etc. On est un peu dans le prolongement en France, je pense qu'en Belgique aussi, on est un peu dans le prolongement et c'est un peu le rêve social-démocrate, c'est tel oui. Que l'État-providence, qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'il est absent, mais c'est comme le dieu caché de l'époque des jansénistes, etc. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un confort et c'est un monde, comme vous le dites, essentiellement rassurant. Et ce monde rassurant, ben, il présuppose quelque part l'existence de cet État-providence qui est là. Donc, je pense que c'est un grand vecteur de l'idéologie de ce moment-là et une grande capsule de la vision du monde telle qu'on pouvait l'avoir à ce moment-là.
Je pense que vous avez absolument raison et ça se sent très fort justement dans différents axes que j'ai essayé de mettre en avant dans le livre et justement cette espèce de monde complètement rassurant d'une part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème dans le monde, dans l'univers de Martine, il n'y a aucune difficulté et en particulier, on le sent très fort dans les premiers albums, aucune difficulté d'ordre financier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la manne est ouverte en permanence. Et ce n'est pas uniquement, je crois, alors oui, c'est en partie parce que, surtout au cours de ces 15-20 premières années d'existence, on sent bien que Martine appartient à un niveau assez élevé, finalement, socio-économique de la population. Mais il n'y a pas que cela, parce que c'était une sorte de croyance, oui, vous dites utopie, mais je pense que c'est ça, de foi, un peu aveugle, on dirait aujourd'hui, bien entendu, mais pour le coup, à l'époque, une foi en un avenir forcément meilleur que le passé, forcément dans le sens d'un progrès continu, marqué par un grand bien-être et donc par une grande tranquillité, finalement, hein, puisque ce confort matériel et ce confort apporté par les social-démocraties en Europe donnait aussi cette impression de bien-être général et de tranquillité. Et ça se sent très, très fort dans les histoires de Martine, ramené évidemment au niveau de l'expérience de l'enfant. Et l'enfant, c'est une enfance rêvée, bien entendu, mais aussi une enfance complètement libre. Martine est une petite fille qui est complètement, alors tout en restant bien élevée, bien cadrée, dans une espèce d'autocontrôle permanent, mais elle est très très libre de tous ses mouvements, de toutes ses initiatives et de toutes les découvertes que son monde lui offre.
Oui, absolument. Je vous cite un moment, donc, les aventures de Martine, en effet, facilitent l'identification, car la petite fille ressemble à s'y méprendre à ses jeunes lectrices, à la différence près, mais elle est de taille, qu'elle vit en permanence dans un monde idéal, nourri de confort, de bien-être et de sérénité. Et ça m'avait évoqué tout de suite Baudelaire, que vous citez quelques pages plus loin, justement, puisque c'est ce rêve. Le panorama s'affirme comme un pays de cocagne où il fait bon vivre, et en citant Baudelaire, où tout est beau, riche, tranquille, honnête, où le luxe a plaisir à se mirer dans l'ordre, où la vie est grasse et douce à respirer. On est tout à fait dans la continuité, et c'est peut-être ce qui fait de Martine une sorte d'oasis dans la culture populaire, même par rapport à nos jours. C'est une sorte d'oasis qui correspond vraiment à un moment, un peu comme la Renaissance, la première Renaissance, ou ce qu'on a appelé rétrospectivement des historiens le beau XVIe siècle, avant qu'il y ait guerre de religion, tout ça. C'est-à-dire un moment dans la culture où il y a quelque chose qui s'est passé, qui est de l'ordre de ce rêve de confort, qui n'est pas seulement matériel, et une image du bonheur absolu. À un moment donné, vous avez cette expression-là, qui est aussi très belle. Et effectivement, on est de ce côté-là. Alors, il y a une longue histoire littéraire et iconographique. C'est l'histoire du hortus conclusus, le lieu fermé, le jardin, c'est l'histoire de la pastorale, de l'idylle, c'est l'histoire de l'utopie aussi à partir de Thomas More, mais on est vraiment dans cette lignée-là d'un imaginaire, comme vous le dites, qui est celui du quotidien, mais un quotidien parfaitement circonscrit et maîtrisé, et où paradoxalement, l'aventure ne peut pas être l'aventure de l'exceptionnel. Et ça, c'est aussi très intéressant. On associe surtout maintenant, inévitablement, les récits aux péripéties, etc., etc. Et là, on est, vous dites, Martine est donc l'héroïne d'une histoire sans histoire. Et si c'était cet enchaînement de non-événements qui plaisait tant au lecteur et rendait Martine l'héroïne sans quête, si attachante.
Ben oui, parce que je trouve que c'est très frappant, surtout quand on lit, comme je l'ai fait évidemment pour la préparation de ce livre, les 60 albums les uns à la suite des autres. Il y a une forme de... Alors, il y a plusieurs époques malgré tout. On a une troisième époque dans les albums de Martine qui laisse un peu plus de place à l'imaginaire. Mais sinon, l'essentiel malgré tout des 60 albums est quand même fortement marqué par cette absence, oui, de péripéties, cette absence d'événements, cette absence de quêtes. Et pourtant, il y a malgré tout la présence d'une aventure au coin de la porte. C'est-à-dire que Martine est malgré tout une héroïne qui a des initiatives, mais qui n'est jamais confrontée à la difficulté. J'ai fait référence, c'est assez banal d'ailleurs comme lecture, mais j'ai fait référence à Prope et à ses théories sur les contes de fées, parce que ça m'intéressait oui. De mettre en parallèle justement cette idée-là, c'est-à-dire les héros des contes de fées, par essence, on dirait, en tout cas, après, bon, les adultes peuvent aussi y trouver plaisir et en faire d'autres lectures. Mais le premier public des contes de fées, c'est effectivement l'enfance. Et là, on se retrouve toujours dans les contes de fées tels qu'ils ont été étudiés par Prope, face à un héros ou une héroïne, qui se retrouve face à une difficulté à résoudre ou un problème à surmonter avec ses adjuvants. Enfin, on connaît le schéma, etc., bien connu de la narratologie. Martine, c'est absolument pas ça. Elle n'a pas de quête, en fait. Et c'est ça qui est assez incroyable quand on lit les albums, c'est de se dire, mais comment font-ils pour arriver à faire tenir une histoire et qu'on ait envie de passer de page en page, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte de, malgré tout, de tension ou d'intérêt pour tourner la page, sans qu'il n'y ait véritablement de problème à résoudre ou d'objectif à atteindre. Et donc, je pense que ça tient justement à cette espèce de côté complètement rassurant à la fois du monde, c'est-à-dire que l'on rentre dans l'univers de Martine, on le sait d'entrée de jeu, puisque tous les albums commencent par une situation qui ressemble très fort les unes aux autres, c'est-à-dire une situation très cadrée, on sait où on est, on sait à quel moment on est. Et bien, on ne sait pas ce qui va se passer après, en fait, c'est ça qui est assez troublant. Et malgré tout, on continue à lire l'histoire et à vivre avec Martine. Pourquoi est-ce qu'on vit avec Martine ces histoires? Bien, je pense que ça tient entre autres au fait que malgré tout ce que je viens de dire, il y a énormément d'action. Martine agit en permanence et elle agit sur son propre monde, c'est-à-dire que elle n'attend pas que les événements viennent à elle, mais elle les devance, c'est-à-dire qu'elle va prendre un tas d'initiatives. Par exemple, elle va avoir envie d'apprendre à faire du vélo et donc elle va faire ce qu'il faut pour obtenir un vélo, pour apprendre à rouler à vélo. Et elle va donc elle-même être le moteur de sa propre histoire.
Elle apprend beaucoup. Vous en parlez à un autre moment. Il y a beaucoup un éloge de l'apprentissage qui est aussi tout à fait. C'est la grande époque de la démocratisation des études, etc. Les enfants qui avant étaient surtout destinés en milieu populaire, ouvrier, à travailler au plus vite. Là, on voit que ce n'est pas du tout ça et qu'au contraire, on est dans une sorte d'exaltation de la maîtrise de différentes techniques. Donc, elle apprend à danser, elle apprend le vélo, elle apprend à nager.
Elle va à l'école aussi. Vraiment, toutes les facettes de l'apprentissage, que ce soit intellectuel ou que ce soit physique, il y a une grande importance donnée quand même aux activités physiques dans les albums de Martine. Et cet apprentissage est la condition sine qua non à aussi une émancipation finalement, et sans doute une émancipation de la femme, ou de la petite fille en tout cas, appelée à devenir femme, qui est aussi propre à une époque. Une émancipation à nouveau qui est cadrée, puisque souvent les apprentissages se font dans un... Ils ne sont pas spontanés, ils ne sont pas, ils sont à la fois libres dans l'initiative première, mais très encadrés dans le déroulement de cet apprentissage, puisqu'à chaque fois, elle est accompagnée soit par un professeur, soit par son grand-père qui lui apprend à faire du vélo, soit en groupe, mais toujours dans le cadre d'un enseignement très encadré. Oui.
Je vous cite encore, selon Marcel Marlier, Martine sait que le bonheur est dans le faire. En effet, Martine est incontestablement une héroïne de l'énergie et du mouvement. Dans 17 titres présentant une structure sujet-verbe-complément, l'action est au cœur de l'histoire. Martine fait du camping, monte à cheval, embellit son jardin, découvre la musique, se déguise, etc., etc. Si elle ne domine pas le monde, Martine domine son monde. Et effectivement, il y a toute cette question que vous traitez abondamment de l'apprentissage des rôles genrés. Alors évidemment, à un premier niveau, on peut se dire, c'est clairement Martine, la petite fille modèle qui se prépare à être, à un moment donné, vous dites, peut-on la classer dans la catégorie de l'apprentie mère de famille BCBG, dont les aventures servent avant tout à conforter une certaine forme de domination masculine. Et ce que vous montrez, c'est qu'au fond, bon, déjà, un certain anachronisme par rapport à la vision contemporaine extrêmement critique, voire parfois méprisante envers l'idée de la femme traditionnelle, comme si c'était essentiellement quelque chose qui ressortait du domaine, sinon de l'aliénation carrément du mâle, alors que là, on est dans un contexte où le modèle de féminité, il est quand même en train d'évoluer beaucoup, comme vous le signalez. Dans Martine, il y a plusieurs choses qui, oui, peuvent sembler parfaitement genrée, etc. Mais il y a aussi quantité d'activités qu'elle partage avec les garçons sans qu'il y ait une distribution genrée quand ils apprennent justement autour de l'apprentissage et autour de l'école. Il y a vraiment ce mythe. Et c'est pour ça qu'on revient un peu à l'utopie, même à la célèbre lettre de Gargantua en Pantagruel, l'utopie pédagogique de la Renaissance, qui est un peu la base de l'utopisme pédagogique en général jusqu'à nos jours. Et au fond, cette idée que grâce à tout cet apprentissage, etc., etc., Martine, elle s'améliore de plus en plus, à la fois, donc une idée là pour le coup un peu hellénistique dans son corps et dans son esprit, cette idée qui est très très fréquente dans Martine, que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a vraiment cette idée que donc beaucoup d'activités physiques, donc une sorte de grande maîtrise physique de son corps et de son environnement, et puis par ailleurs, cet apprentissage et cette ouverture, cette curiosité dans l'allégresse et dans la joie de vivre, ce qui est aussi encore une fois un terme qui revient beaucoup dans votre étude.
Oui, et je pense que cette joie de vivre, avant de parler des activités genrées, cette joie de vivre, elle découle aussi de ces 30 glorieuses où on avait de foi, de croyance vraiment profonde que la vie serait belle, qu'on serait de plus en plus nombreux à pouvoir profiter du bien-être matériel, culturel, intellectuel, des loisirs, etc. Voilà, comme si cette ouverture serait infinie finalement et de plus en plus accessible à tous, en fait. Hein. Et donc, ça entraîne une joie et un enthousiasme, finalement, de la part de l'ensemble de la population, et là, dans ce cas-ci, matérialisé ou concrétisé sous l'image de Martine.
C'est le moteur du baby-boom, parce qu'en fait, c'est vraiment par opposition aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas si loin, tous ces gens-là l'ont vécu. Oui. Donc, effectivement, il y a ce nouvel engouement qui se traduit par cette montée spectaculaire des naissances, etc., qui est une sorte de rêve, de renouveau des sociétés. Et c'est d'ailleurs un moment où on voit les communistes très importants dans la vie politique française, mais aussi les catholiques, etc. On voit en fait tout ça, tous les différents dans le spectre idéologique, on voit qu'il y a quand même un engouement. Il y a une phase optimiste qui n'est pas seulement du côté d'un secteur de la population ou de l'opinion.
Non, et puis c'est pas une posture naïve non plus, hein, ou c'est pas une posture qui est complètement en dehors du temps et en dehors du monde, justement du contexte dans lequel Martine naît et évolue les premières années, ou en tout cas les premiers albums. Mais donc pour revenir à la répartition genrée, en effet, j'ai essayé de montrer à quel point, parce que c'est comme ça que je l'ai senti en tout cas, et analyser, la lecture était beaucoup plus nuancée qu'on voudrait bien la donner, ou en tout cas qu'on essaye parfois de la donner de manière un peu trop, à mes yeux, un peu trop radicale, parce que effectivement, il y a chez Martine, à certains moments, une forme de reproduction de stéréotypes de genre ou d'activités considérées pour les hommes ou pour les femmes. Le fait, par exemple, que sa mère, la mère de famille, soit mère de famille, en effet, femme au foyer, qu'elle ne travaille pas à l'extérieur alors que le papa travaille, que certaines professions qui apparaissent dans les albums sont typiquement masculine pour les hommes, typiquement féminine quand il s'agit des femmes. Donc tout ça, c'est vrai, il ne faut pas le nier, ça existe. Mais à côté de tout cela, il me semblait malgré tout qu'il y avait une volonté d'émancipation et de rompre finalement avec justement ces stéréotypes de genre, notamment à travers des activités du quotidien. Donc Martine, elle pêche aussi. Alors généralement, la pêche, on considère plutôt que c'est des activités de garçon, hein. Elle se réalise à travers des activités physiques également, et puis elle partage certaines de ses activités, donc ça va même plus loin, parce qu'il y a certaines activités qui sont théoriquement plutôt réservées aux femmes, comme faire le ménage ou faire la cuisine, qu'elle partage avec son petit frère. Et à parts égales, et même il y a l'album où ils font la cuisine, où c'est elle qui dirige. Donc elle dit à son frère, tu fais ça, et c'est lui qui finit par faire la vaisselle. Voilà.
Elle est plus dégourdie et débrouillarde que son frère.
Absolument.
Bon, c'est elle l'héroïne. Mais
c'est l'héroïne, elle est l'aînée, donc voilà, il y a une logique aussi à cette répartition-là. Mais ce n'est pas si marqué, si clivé, en tout cas, qu'on veut bien parfois le montrer, même s'il est évident qu'il y a de moments ou d'allures ou d'actions qui sont marquées aussi par un contexte d'une époque. On ne peut pas le nier, je veux dire... Dans les années 50 ou dans les années 60, elle correspond aussi à ce qu'on attend d'une petite fille de cette époque-là.
Oui, nous sommes à 70 ans après le début de Martine, donc c'est sûr que le regard contemporain, alors justement, diffère du regard initial. Alors justement, il y a l'évolution. C'est très intéressant parce que c'est vrai que quand maintenant on achète les albums de Martine, on a un peu un pêle-mêle, surtout moi qui les achète d'occasion, j'ai un pêle-mêle de versions. Alors des fois, j'ai deux versions, dont une qui est l'ancienne et une autre qui est la nouvelle. Alors c'est amusant. Et vous démêlez assez minutieusement ces choses-là. C'est qu'il y a eu une évolution, une sorte de double évolution. Il y a l'évolution de la série elle-même, c'est-à-dire évolution du style, de l'illustration, qui au début est justement un petit peu proche de l'illustration publicitaire ou même...
Le Walt Disney avant aussi, hein, les tout premiers, rappelle les dessins animés, rappelle oui. Bambi par exemple.
Les animaux parlent pendant longtemps, oui. Ça d'ailleurs, j'ai bien vu que c'était un peu mélangeant pour ma fille parce que des fois... Les animaux parlent, des fois non. Alors bon, moi, je m'amuse à changer ça. Et comme le fait qu'ils parlent m'amuse quand même plus qu'ils ne parlent pas, je fais qu'ils parlent tout le temps. Mais c'est vrai qu'après, progressivement, ils deviennent aphones. Enfin, ils s'animalisent, ils se désanthropomorphisent. Il y a l'évolution des mœurs, évidemment, quand même. Et alors, même si on reste dans un univers assez immobiliste et dans cette sorte de rêve qui est à la fois, je pense, l'image de marque de la franchise, je pense que ça, les auteurs en ont été conscients malgré les immenses transformations des années 60-70. Et je pense que c'est très intéressant aussi de l'étudier en comparaison avec d'autres grandes franchises franco-belges, par exemple. L'idée qu'il y a vraiment clairement des choix à faire entre le fait de est-ce qu'on garde les référents initiaux ou est-ce qu'on chamboule tout? Et donc, selon les franchises, ça a été des choix différents. Dans Martine, c'est clair qu'on garde le noyau, l'univers, etc. Mais on voit quand même que, justement, il se passe des choses un peu différentes dans les années 60, 70. Martine incarne des changements des fois iconographiques, amusants, et elle prend des pantalons, comme vous le signalez, les pantalons à pattes d'éléphant, évidemment. Elle rencontre des babacools dans un train dans les années 70. Au-delà de ces aspects un peu iconographiques et thématiques, on peut dire que Martine évolue quand même un peu aussi, sans qu'il y ait vraiment une progression au sens réaliste du projet réaliste, mais il y a une petite évolution.
Oui, alors elle évolue. Alors, d'abord, elle évolue au niveau des histoires, c'est-à-dire que progressivement, elle va prendre de plus en plus d'assurance finalement dans les différents albums. Et puis, comme je le disais il y a quelques minutes, dans une troisième phase, on va carrément explorer l'imaginaire avec des choses assez intéressantes, d'ailleurs des ruptures finalement par rapport à cet univers très 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 cadré dans lequel je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de péripéties, il n'y avait pas de danger. Il y a des petites apparitions un peu fugaces, hein, et très très vite réglées quand même. Les problèmes ne durent pas bien longtemps, mais il y a quand même des petites tensions qui apparaissent, des petites tensions narratives qui apparaissent dans les albums de la dernière période. Mais ce qui me semble plus intéressant encore que cela, parce que ça finalement ça relève d'une évolution de type de récit et de type d'histoire que les auteurs proposent et qui sans doute répondent à une volonté de renouvellement et peut-être une attente du public aussi également, ou un épuisement peut-être. Voilà, elle avait finalement tout appris déjà, elle n'avait plus grand-chose à apprendre. Martine, il fallait bien lui faire faire autre chose. Mais ce qui m'intéressait aussi particulièrement, c'était de voir que socialement, elle évolue. Et ça, c'est très intéressant parce que Martine est malgré tout une héroïne, et on l'a souvent dit dans la conversation que l'on a, est une héroïne qui a l'air d'être en dehors du monde. C'est-à-dire que les soubresauts ou les évolutions de la société, depuis sa naissance où elle était clairement ancrée dans cette idée des Trente Glorieuses, après ça, on a l'impression que finalement, ce qui se passe dans le monde n'a que très, très peu d'impact sur elle. Et pourtant, malgré tout, on constate, de nouveau par des petits indices subtils, hein, ce n'est pas des changements, on ne parle pas de changements radicaux, il y a des indices subtils qui nous font comprendre que finalement, Martine ne se situe plus dans une sorte de sommet ou de demi-sommet de la pyramide sociale et socio-économique, mais qu'elle a élargi finalement quelque part la base dans laquelle elle se situe. Alors, ce n'est pas tellement, on ne peut pas parler d'un déclassement social, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas qu'elle devient plus pauvre ou moins aisée d'aventure en aventure, mais en tout cas comme si, de manière très subtile, très fine, elle élargissait la base dans laquelle elle se situe. Et ça se ressent très fort, par exemple, si on prend deux épisodes qui sont ceux des vacances. Martine, à la fin des années 50, au début des années 60, je ne sais plus la date exacte de l'album, part faire du camping avec ses parents. Et on se rend compte que même si c'est du camping de luxe, c'est une voiture de luxe, les parents sont bien habillés, tout le monde est bien habillé, tout est très élégant, très high-tech finalement pour l'époque. Et puis, 20 ans plus tard, elle part de nouveau en vacances avec ses parents et là, elle se retrouve en caravane dans un camping où visiblement, elle a l'habitude d'aller, elle va assister à des défilés de majorettes, elle se mêle à une population finalement très bigarrée socialement. Et là, on se dit, tiens, Martine a quand même pris en compte, enfin en tout cas les créateurs de Martine plus exactement, ont quand même pris en compte une certaine évolution sociale sans qu'il n'y ait de message ou de revendication ou de prise en compte apparente en tout cas de ces changements sociaux, c'est-à-dire qu'elle s'est adaptée quelque part à l'évolution de son lectorat peut-être.
Oui, et aussi je pense déjà c'est très caractéristique de dire c'est un mythe quand il naît, et au fond quand il naît, le mythe, il incarne une époque. Et comme il a incarné ces Trente Glorieuses, ce qui est assez curieux, c'est que malgré les immenses bouleversements qui vont suivre, elle continue à transmettre jusqu'à nos jours cette sorte d'idéal qui d'ailleurs va devenir la source des parodies, on en parlera à la fin. C'est aussi l'image de la classe moyenne au fond qui se transforme, parce qu'au début, on voit bien une sorte de classe moyenne qui se rêve en classe moyenne huppée, Donc,
c'est ça, qui aspire et qui aspire à toute une série de signes extérieurs, justement, de richesse, d'une richesse modeste, mais richesse malgré tout. Et donc, on le voit très fort dans l'aménagement de la maison, avec toutes ces nouveautés technologiques, tous ces électroménagers à la pointe du progrès. On le voit très fort dans l'avion qu'elle prend, dans la traversée de l'Atlantique qu'elle fait également. Et c'est effectivement une sorte de rêve, vous l'avez bien pointé du doigt, une sorte de rêve de cette classe moyenne. Et puis, dans les années 80, déjà 70-80, on est dans un rêve qui est beaucoup plus modeste dans ses ambitions, finalement. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un monde extrêmement protégé, extrêmement bienveillant, extrêmement empli de joie, d'allégresse, de bien-être, mais qui est plus en accord, finalement, avec la réalité de la société dans laquelle vit à ce moment-là le lectorat de Martine. Et pourtant, on est malgré tout dans une impression de bien-être et de bonheur. C'est ça qui est fascinant, en fait.
Oui, puisque c'est un peu, je pense, l'imaginaire des classes moyennes elles-mêmes qui a un peu changé. C'est qu'au lieu de regarder vers la classe moyenne, la haute classe moyenne, finalement, c'est plus les classes moyennes qui restent dans leur code de classe moyenne avec leurs vacances, leurs trucs, etc. Mais qui ne se rêvent plus. Au fond, ce serait intéressant, en creux, de faire une sorte de sociologie un peu bourdieusienne de Martine. J'imagine que vous citez quelques études académiques qui doivent être bien marrantes aussi, puisque ça se prête assez bien. C'est un peu le rêve lui-même de la classe moyenne qui change, qui passe du modèle de l'émulation à celui tout simplement de l'identification. Je pense que c'est...
Oui, et de l'adaptation finalement aussi aux circonstances. Je crois qu'il y a de cela aussi. Essayer de trouver, c'est comme si Martine finalement, malgré les circonstances extérieures desquelles elle semble protégée en tant que personnage, elle s'adaptait elle aussi aux circonstances extérieures, mais sans les intégrer complètement. Donc elle intègre le code, mais pas les circonstances, puisqu'elle continue finalement à être pleinement épanouie dans le milieu dans lequel elle est, quel que soit ce milieu finalement.
D'ailleurs, c'est ce qui, quand vous analysez la série, je ne savais même pas qu'il y avait une série, mais quand vous analysez la série des années 2010, c'est ce qui ne marche plus du tout. Parce que la série, bon, déjà parce que c'est d'autres impératifs, les séries télévisuelles, mais aussi les codes de ces séries sont très différents. Mais du coup, c'est là où font irruption les péripéties, mais il faut aussi du coup créer un personnage de repoussoir et il faut créer un univers beaucoup plus polémique ou problématique. Si on reprenait le schéma de Georg Lukács, ce qui est intéressant, c'est que Martine n'est pas un héros de la problématisation. Donc, au fond, c'est une héroïne prémoderne. Et ça, c'est aussi, je pense, sa force. Et à un moment donné, vous dites tout simplement qu'elle est, ce qui est très super. Ouais, c'est... En cela, elle est l'héroïne par excellence, car elle n'a pas besoin d'un adjuvant. Elle est, quand vous la comparez à d'autres personnages féminins qui ont des adjuvants. Alors, effectivement, donc, il y a l'évolution qui est interne à la série avec tous ces éléments que vous avez signalés. Effectivement, j'avais remarqué aussi cette irruption de l'imaginaire de plus en plus prononcée. Alors, c'est plus années 80-90, avec des figures un peu inquiétantes par moments qui apparaissent, mais qui sont souvent du domaine de l'onirique. Et là, vous évoquez justement le fait qu'il y a des sortes de passages à un métalepse qui est un peu amusant, parce qu'on pourrait dire que c'est le moment postmoderne de Martine, où elle quitte le récit prémoderne et tout à coup, on est carrément dans ces récits dans le récit où Martine voit des gens qui sont en train de lire son histoire. C'est carrément la deuxième partie du Quichotte. Donc,
Moi, j'ai trouvé ça fascinant, cet album que je ne connaissais pas parce qu'il est sorti alors que j'étais déjà jeune adulte, donc je n'avais pas eu l'occasion de le lire enfant. Mais quand je l'ai découvert, j'avoue que j'ai été assez surprise en fait par l'audace finalement. Il y a une grande rupture par rapport aux autres albums dans celui-là.
Oui, elle se trouve même dans des sortes d'univers parallèles. Je ne me rappelle plus dans quel moment il y a une foire qui rappelle d'ailleurs le Grand Mon. Je pense que c'est un hommage au chef-d'œuvre d'Alain Fournier. Tout à coup, il y a cette sorte de truc où après on comprend que c'est un rêve, mais elle arrive quelque part, comme dans beaucoup de récits fantastiques, qui est à nouveau ce qu'elle a vu dans le rêve. Donc, on imagine qu'il y a une sorte de récursivité, qu'elle se trouve un peu prise dans une boucle.
Exactement. Alors, c'est une époque aussi qui est marquée Delahaye est décédé. Hein, Gilbert Delahaye est décédé. Et donc, c'est un des fils de Marcel Marlier, Jean-Louis, qui a repris en fait l'écriture des scénarios. Je n'ai pas pu avoir suffisamment d'informations pour savoir à quoi c'était dû finalement. Est-ce que c'était une décision éditoriale? Est-ce que c'est une volonté de Marlier? Est-ce que c'est le nouveau scénariste qui a choisi d'y mettre sa patte? Est-ce que c'est un peu tout ça en même temps? Je vous avoue que les informations premières m'ont manqué pour pouvoir tirer des conclusions.
Je pense que l'hypothèse la plus réaliste, c'est justement que c'est le scénariste, parce qu'on voit bien qu'il apporte un univers qui est marqué par les lectures du fantastique, la grande tradition fantastique belge, qui correspond beaucoup au goût des années 80 aussi. Ce sont les grandes années du fantastique et tout ça. Donc je pense que c'est probablement un choix de scénario. Évidemment, comme c'était son fils, son père a trouvé que c'était une bonne idée.
Voilà,
Et
certainement.
la maison d'édition, probablement aussi, parce que ça allait quand même dans un certain air du temps.
Elle est quand même renouvelée malgré tout, hein. Je pense que le lectorat de Martine était acquis, mais peut-être n'aurait-il pas été aussi, enfin, acquis aussi longtemps s'il n'y avait pas eu aussi ce renouvellement narratif finalement à l'intérieur même de la série. Et puis
Oui.
après, pour revenir sur un autre élément que vous pointiez des évolutions, il y a eu aussi, et ça, ils sont beaucoup plus récents, ces changements. Il date des années 2010. Il y a eu des changements. Donc, il y en a déjà eu par le passé, des changements de couverture, etc. Mais à partir des années 2010, il y a une vraie volonté de moderniser la collection. Et ça, c'est très intéressant aussi comme phénomène, je dirais, de vouloir prolonger éternellement l'existence du personnage et de la collection. Et donc, l'éditeur décide de se passer des textes existants, c'est-à-dire de les réécrire entièrement, de les remettre au goût du jour, disons, avec des changements de différents ordres. Il y a une simplification lexicale, malgré tout, hein, où on estime certaines tournures, certains termes sont plus difficiles à comprendre pour les lecteurs d'aujourd'hui que ceux d'il y a 50, 60, 70 ans. Et puis, il y a une volonté aussi, forcément, de s'adapter aux changements sociaux, c'est-à-dire il y a quand même des éléments que l'on gomme ou que l'on transforme. Je cite l'exemple dans le livre, mais j'aurais pu en citer d'autres, de ce moment où Martine décide de fêter son anniversaire. Et donc, dans le premier album où elle fête son anniversaire, elle va chez le coiffeur avec sa mère pour se faire belle, pour accueillir ses amis. Ça, il semblerait qu'aujourd'hui, dans les années 2010, ça soit plus envisageable qu'une petite fille de 8 ou 9 ans aille chez le coiffeur avant son anniversaire. Et donc, c'est transformé. Cette séance de coiffeur est transformée par une séance où elle le fait à la maison.
Comment ils ont fait pour l'illustration? Parce que normalement, ils gardent les illustrations, mais je me
Alors,
rappelle
il garde les
qu'on est là.
illustrations. C'est ce que j'allais vous dire. Ce qui est incroyable comme tour de force, c'est que donc, il décide de modifier le texte pour le remettre au goût du jour, disons pour faire simple, mais il garde absolument les illustrations et l'ordre des séquences.
Mais l'illustration de la coiffeuse, parce que j'ai la première
Il y a
version,
le casque.
dans ce truc immense, les casques, comme, donc.
Voilà. Eh bien, ils disent tout simplement, ah, c'est sympathique, maman m'a prêté son ancien casque. Quelque chose comme ça, j'ai oublié la formule exacte, mais l'idée, c'est
Ah ouais.
ça.
Oui, vous citez aussi à un moment donné, donc, puisque les illustrations sont celles d'origine, il arrive qu'un commentaire se charge d'expliquer la présence d'objets devenus obsolètes. Et alors on voit, c'est quoi? Demande Manon en observant le vieux tourne-disque. Un appareil à musique. Il appartenait à ma mère quand elle était petite. D'ailleurs, elle m'a donné tous ses disques. Donc, bon, quelque part, je me réjouis d'avoir les vieilles versions achetées d'occasion parce que, bon, je suis plus rétroman et vintage que dans la réécriture. Mais c'est très drôle de voir qu'effectivement, ils sont obligés d'expliquer les tourne-disques. Et plus ça va, plus il va falloir expliquer à peu près tous les objets.
Ah oui, je pense qu'à peu près tout va devoir y passer. Et puis, à côté, effectivement, des éditions modernisées, disons, il y a aussi une volonté chez Casterman, justement pour fidéliser un lectorat dont vous faites partie, visiblement. Ils rééditent des éditions vintage. Donc, ils reprennent les anciennes couvertures et l'ancienne mise en page. Enfin, tout est respecté, mais avec des couvertures voilà, fabriquées aujourd'hui et donc qui évitent justement de retomber sur des albums trop abîmés par le temps.
Il y a un truc aussi qu'évidemment, puisque la logique de la collection, c'est de centrer sur le personnage, mais il y a un truc qu'à un moment donné, je me suis retrouvé aussi avec plein de trucs qui ne sont plus de Martine, mais plein d'amis de Martine, etc., etc. Et c'est un petit épisode, j'étais curieux de savoir ce que vous en pensiez, parce qu'à un moment donné, on dirait que, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il ne fallait pas produire plus que X Martin par année, et donc ils ont sorti aussi d'autres personnages en parallèle, ou bien si c'était l'envie d'explorer d'autres options narratives, je ne sais pas trop, mais ça a créé vraiment comme une sorte de petit univers transfictionnel où
Oui,
il
c'était un peu comme des spin-offs ou comme
y a.
ça
Oui,
de
exact.
Martine. Oui, ça a été créé à un moment. Alors, je ne crois pas qu'il y avait une volonté de limiter le nombre d'albums parce que de ce que j'ai pu apprendre concernant Marlier, en fait, c'était un peu l'inverse qui se produisait. C'est-à-dire que Marlier était parfois trop lent au goût de Casterman.
Très perfectionniste, oui.
Parce qu'il était extrêmement perfectionniste. Et ça, il y a à Moucron, dans la ville d'origine de Marcel Marlier, ils ont créé il y a quelques années un musée qui s'appelle Centre Marcel Marlier, Dessine-moi Martine, donc qui est centré sur le personnage de Marcel, enfin sur le créateur Marcel Marlier, mais qui fait évidemment la part belle au personnage de Martine, qui est quand même son personnage fétiche. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils exposent des croquis préparatoires et on se rend compte à quel point ils mettaient un soin extrême à peaufiner le moindre de ses dessins. Et c'est même, je pense, dans ce musée-là qu'on raconte qu'il était parfois, il passait des heures et des heures et des heures à tel point qu'il était toujours en retard ou presque pour rendre ses dessins à Casterman.
Évoquer des centaines de croquis préparatoires, ça doit être assez fascinant. J'imagine.
C'est vraiment fascinant et les crayonnés simplement au crayon noir sont vraiment très 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 beaux. Après, bon, après c'est des questions de goût et d'esthétique, mais parfois on se dit. Bon, là, ça n'engage que moi, que la couleur qui fait pourtant partie de la magie des dessins de Marlier dans les albums, eh bien, quand on voit les crayonnés, la couleur parfois gâche.
Est-ce que ça a été publié? Parce que ce serait un super bouquin que vous pourriez...
Alors, il y a un bouquin qui existe, qui a été publié en hommage à Marlier, avec des tas de dessins qui sont reproduits, oui. Je vais me lever, mais je l'ai un peu dans une autre pièce de la maison, voilà.
Super, non, c'est vrai que vous l'évoquez à plusieurs reprises, mais c'est vraiment une des raisons du succès, c'est un chef-d'œuvre de l'illustration. Pour revenir d'ailleurs un moment, juste brièvement, quand vous évoquiez... La transition, en fait, c'est un retour et pas un retour parce que parallèlement à cette construction très précise, très minutieuse de ce monde bucolique que du coup on partage, on entre dans cet univers grâce à l'illustration. Et je pense que c'est le plaisir fondamental que les enfants peuvent en tirer, cette extrême vraisemblance d'un univers très plaisant, en fait, où tout est aimable. Et donc, cette sorte de rêve de sérénité, etc. Et puis... aussi le fait que justement Martine a fait date dans le sens que on quitte définitivement l'univers propien, donc des contes tels que les Märchen des Allemands, c'est-à-dire les contes que nous on appelle contes de fées, mais bon, contes populaires ou contes de fées, puisque c'est pas exactement la même chose, mais non. On quitte l'univers des contes populaires et des contes de fées plus littéraires avec leurs milliers de péripéties, etc., qui avaient quand même, bon, qui ont continué dans l'illustration, et heureusement aussi, parce que bon, il y a eu tout un débat sur le fait qu'il fallait ne plus les raconter, donc déjà dans les années 50-60, et que Bettelheim avait défendu dans son célèbre psychanalyse des contes de fées, et puis c'est un truc qui revient régulièrement à cause de tout ça, les valeurs contemporaines qui ne se retrouvent pas dans ces histoires, etc. Mais donc, parallèlement à ça, Martine inaugure une nouvelle catégorie d'albums pour la jeunesse et de héros et héroïnes, puisque c'est tout à fait dans son sillage que se situe Caillou, que se situe Camille, que se situe plein de personnages à la suite. Moi qui ai été moi-même élevé plutôt à l'ancienne école des contes populaires et des contes de fées avec les péripéties, etc. Pour moi, Martine, c'est ce que je tolère de la nouvelle mouture. C'est-à-dire que dans Martine, il y a encore, moi je trouve, des valeurs rédemptrices, etc. Mais après, avec Caillou, Camille, etc., on tombe dans la totale insignifiance. Mais justement parce que c'est la voie ouverte par Martine, où on est dans un équilibre, comme vous le signalez à plusieurs reprises. Donc, le sous-titre de votre livre, c'est « Une aventurière du quotidien », mais il y a quand même quelque chose de l'aventure qui reste. Alors que dans Caillou, Camille, etc., c'est des histoires où il y a un Caillou qui tombe de son vélo, il se fait mal et il revient chez lui.
Et maman le console. Voilà,
c'est la fin de l'histoire. Mais c'est une blague, c'est un running gag avec ma fille. Moi, je m'amuse à dire, mais ce n'est pas une histoire. Et elle, ça l'amuse, et c'est pour ça que ça l'amuse que je la raconte. Mais elle a compris qu'effectivement, il n'y a pas d'histoire. Et que, bah, pour moi, c'est presque de l'escroquerie. C'est juste une sorte de truc où, carrément, il ne se passe rien, mais on est tombé, je trouve, dans une insignifiance. Alors que dans Martine, c'est plus le fait qu'il ne se passe rien, mais au sens des péripéties, etc. Mais il y a encore l'idée de découvrir. Il y a encore l'idée de l'apprentissage, il y a encore l'idée...
La nouveauté aussi, hein. Chaque fois c'est une nouveauté, c'est un nouveau monde, un micro-monde qui s'ouvre à Martine à chaque fois qu'elle a... qui marche aussi, et ce que personnellement je continue d'apprécier finalement dans les histoires de Martine, voilà, l'idée qu'il n'y ait pas de péripéties, c'est qu'elle est vraiment dans la prise de décision. C'est-à-dire que c'est elle qui prend l'initiative des différentes choses qu'elle entreprend à chaque fois dans chaque album. Et donc, il y a malgré tout une action. C'est-à-dire, il n'y a pas de péripétie, mais il y a une action. Il se passe quand même quelque chose, et ce quelque chose, c'est elle qui est le moteur, finalement, qui déclenche la force, voilà, la force motrice, finalement.
Oui. C'est l'idée d'activité. Au fond, avec Martine, on évoque des journées qu'on aimerait pouvoir passer avec nos enfants, parce qu'on aimerait pouvoir partir dans ces endroits tellement champêtres, sans arriver dans des campings hyper remplis de gens qui mettent la télé ou des trucs comme ça. Enfin bon, les portables et tout ça. Donc c'est curieux, parce que quelque part, c'est un peu l'image d'une journée réussie avec des enfants, alors qu'après, avec Caillou et les autres, on tombe carrément dans aller au dentiste, aller faire les courses, enfin bon, des trucs qui font carrément absolument pas rêver. Donc c'est assez curieux parce que Martine, ça aussi, ça a été un point d'inflexion où on découvre le quotidien, on donne le quotidien comme territoire d'exploration, mais par la suite, bon, bah, ça a quelque part un peu dégénéré selon mon point de vue. Et enfin, dans votre avant-dernier chapitre, on arrive à un point très réjouissant, évidemment, que vous évoquez avant, puisque c'est la manière dont on connaît le plus Martine maintenant, c'est à travers tous les memes, les mèmes et les variations parodiques. Alors, vous citez plusieurs assez rigolotes, dont les plus récentes. Donc, la pandémie mondiale due à la COVID-19 a-t-elle donné lieu parmi des nombreuses inventions à Martine sort sans son attestation, Martine confinée à la maison, on s'en doute, Martine fuit les rassemblements de 250 personnes et plus, ou Martine en a plein le cul de porter le masque. Il y a aussi Martine ne comprend rien à Twitter, Martine les faux saints, Martine s'emmerde, etc. Donc bon, c'est tout cet univers très partagé, très viral, etc. C'est très curieux. Moi, pour moi, c'est justement le fait que après les 30 glorieuses, on parle parfois des 30 piteuses et à quel point justement cet univers initial est devenu une sorte de paradis perdu. Autant pour ceux qui l'ont vécu, donc pour les baby boomers nostalgiques de leur enfance, que pour ceux qui ne l'avons pas vécu comme tel, mais qui avons peut-être vécu la fin de ce cycle dans les années 70-80, où on était encore dans cette lancée, mais c'était déjà un peu beaucoup plus complexe. Et puis, donc, c'est devenu quelque chose qui est presque à la limite de la science-fiction, cet univers aussi simple où, justement, il n'y a pas toutes les trucs extrêmement anxiogènes de notre époque, toutes les querelles de société sur...
C'est presque devenu une dystopie, finalement. On est passé de l'utopie à la dystopie, presque.
Et donc, c'est peut-être ça qui fait que c'est tellement un vecteur d'ironie dans l'univers d'Internet francophone, mais au-delà aussi de la francophonie.
Oui, oui, je pense qu'il y a effectivement ce décalage, finalement, qui est possible, hein, et qui permet d'être finalement parfois aussi irrévérencieux avec le personnage de Martine. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une attaque directe de moquerie autour de Martine. Simplement, je pense qu'elle facilite justement cette utilisation-là parce qu'elle offre un côté extrêmement lissé en tant que personnage. Elle peut servir à être détournée dans les couvertures. Et puis, je crois qu'on y revient, mais les dessins de Marlier facilitent aussi cette utilisation. Parce qu'ils sont d'une très grande plasticité, finalement. Et de nouveau, c'est parce qu'on est dans un quotidien reconnaissable et qui donc peut permettre l'identification aussi, que ce soit hier comme aujourd'hui, finalement, avec des scènes qui se trouvent sur les couvertures, des scènes qui sont très facilement identifiables, même aujourd'hui. Et de nouveau, c'est un paradoxe par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est à la fois un personnage très ancré dans un monde qui est celui des 30 Glorieuses, que certaines personnes aujourd'hui créent des parodies à partir de ces couvertures-là, n'ont absolument pas connu et sont bien loin d'imaginer, même pas comme moi. Moi, je suis née dans les années 70 et je vois encore bien ce que c'est. J'ai encore pu percevoir ça, mais quelqu'un qui est né dans les années 90 ne ressent peut-être plus du tout, comme moi j'ai pu le ressentir encore. Mais il y a aussi en même temps, et paradoxalement, cette grande plasticité des couvertures parce qu'elles sont ancrées dans un quotidien atemporel. C'est ça qui augmente. Et puis il y a un effet boule de neige aussi. Je crois que là, mais là, c'est plus de l'ordre des, justement, des réseaux sociaux et de. Mais curieusement, c'est un effet boule de neige qui ne faiblit pas, parce que souvent, on a des effets de buzz comme ça avec certains phénomènes qui font l'objet de détournements et puis ça dure. C'est très concentré. Il y a énormément de production, mais ça dure très peu de temps. Mais avec Martine, curieusement, on n'a pas l'impression que la vogue faiblit finalement.
Non, c'est un parfait miroir inversé. C'est à la fois donc un paradoxe dans votre conclusion, donc vous dites oscillant entre l'image de la petite fille modèle et celle de la femme en devenir, Martine évolue dans un univers aux allures de réel, mais qui correspond davantage à une vision idéalisée et édulcorée du monde, où le malheur, le drame et la misère n'existent pas. En dépit d'un univers hyper réaliste dans les images, comme dans les textes, mais surtout dans les images, Martine demeure insaisissable. Et vous dites à la fin, coûte que coûte, elle conserve l'optimisme et l'idée du bonheur continu des Trente Glorieuses comme s'il s'agissait d'un talisman. Et du coup, il y a un effet justement de voyager dans le temps, à les lire. Alors ça dépend évidemment de l'âge du lecteur et de sa situation par rapport à cette chronologie-là, aussi du contexte culturel, parce que ce n'est pas exactement la même chose de le lire au Québec, en Belgique, en France, en Espagne ou ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment un style d'époque qui permet justement que les parodies s'exercent.
On a l'impression qu'il n'y a pas de phénomène de lassitude, ouais. En fait, que c'est infini, que les possibilités sont infinies. Et moi-même, je me surprends quand j'en découvre de nouvelles, je me dis, ah ben oui, c'est vrai, j'aurais pas imaginé. Et puis pourtant, il y a quelqu'un qui imagine. Voilà.
Et il y en a qui sont plus réussis que d'autres, puisqu'il y en a qui jouent vraiment un peu sur les décalages et l'interprétation de l'image que l'on peut donner.
Mais celle de Martine ne comprend rien à Twitter, il y a cette idée-là, puisque c'est la couverture de Martine et son ami le moineau, hein, où on voit vraiment le moineau et elle met son doigt comme ça, comme pour le gronder. Donc, on joue vraiment, là, il y a un double code, en fait. Hein. Il y a une sémiotique très intéressante.
Oui, tout à fait. En tout cas, je pense que donc, tous ceux et celles qui nous écoutent auront compris que c'est un livre extrêmement plaisant, à la fois très, très pertinent. On découvre aussi plein de choses, comme par exemple que Michael Jackson avait voulu faire un album avec Merlier, donc, qui était fasciné. Alors, évidemment, maintenant, on peut se poser la question de pourquoi Michael Jackson était intéressé, ce qui était probablement un peu peut-être plus cynique, mais c'était son rêve aussi de ce paradis de l'enfance, etc. Très, très bizarre chez Jackson. Mais bon, ça aurait été vraiment quelque chose d'assez inattendu dans les années 80.
Complètement. On en vient à regretter hein, finalement que cette collaboration n'ait pas eu lieu, bien que les deux hommes se sont rencontrés. Hein, visiblement, ils ont quand même fait connaissance. Alors, ce qui est très drôle, que je ne raconte pas dans le livre, mais voilà, je l'ai lu dans la presse parce qu'au moment du décès de... Tout ça a été révélé au moment du décès de Michael Jackson parce qu'il y a quelqu'un qui s'est rappelé que Marlier l'avait rencontré et donc il y a eu comme ça en cascade plusieurs interviews avec Marlier à ce sujet-là. Non seulement il lui avait proposé d'illustrer un album qu'il aurait écrit que Jackson aurait écrit pour la jeunesse, mais il se trouve qu'au moment où ils se sont rencontrés, enfin juste avant, Marlier ne savait pas qui était Michael Jackson. Il paraît qu'il aurait dit qu'on lui aurait dit Michael Jackson veut vous rencontrer, et il a dit qui ça ? Et puis son agent ou je sais pas son attaché de presse lui a dit mais enfin si Michael Jackson enfin vous voyez bien etc et il a dit ah mais non je sais pas du tout qui c'est enfin mes enfants ils n'écoutent pas ce genre de musique quand on lui a expliqué après que c'était popstar quoi.
J'ai l'impression qu'il était un peu hors du monde Marlier.
Non je pense qu'il était hors du monde et donc c'est très curieux et il y a encore une seconde anecdote que je ne raconte pas dans le livre mais que j'ai lu par rapport à cette rencontre improbable entre ces deux hommes venus d'univers tellement différents. C'est qu'apparemment, Marlier aurait discuté avec son épouse au moment où ils ont rencontré Michael Jackson en se disant « Le pauvre, il n'a quand même pas l'air très, très heureux. Je pense qu'il ne se rend pas compte de ce que c'est que la vraie vie. On devrait peut-être l'inviter chez nous. Plutôt que nous aller aux États-Unis, on devrait l'inviter chez nous et qu'il se rende compte un petit peu de ce que c'est que la vraie vie. » Parce qu'il est un petit peu déconnecté de la réalité du monde. Donc, j'aurais bien voulu imaginer Michael Jackson se promener dans le village de Marcel Marlier, aller faire les courses avec lui au supermarché. Enfin, ça aurait pu donner lieu à des choses un peu extraordinaires.
Ça aurait donné une rencontre Michael Jackson qui aurait été quand même assez fascinant. Version Thriller ou version Baby Jeans, ça aurait été curieux.
Exactement. Mais ils se sont vraiment vus. Après, ils lui a acheté, je pense, quelques dessins où Marlier lui a donné parce qu'il était visiblement très, très peu conscient finalement de la valeur marchande que pouvaient avoir ses dessins. Donc il y a quand même une vraie rencontre, mais pas de rencontre artistique.
C'est très très curieux. Donc on apprend beaucoup de choses, et pour ceux qui, celles qui connaissent Martine, soit par des lectures d'enfance, soit justement en tant que parent, c'est vraiment extrêmement réjouissant de retrouver des analyses de ces albums-là. Et par ailleurs, c'est une très bonne, un très bel exercice d'interprétation de figures de la culture populaire sur laquelle, a priori, beaucoup de gens ne sauraient pas trop quoi dire, outre le fait que cela existe, mais où là, justement, on voit à quel point c'est très intéressant, même dans quelque chose qui semble très transparent et très évident comme c'est Martine. Notamment, d'ailleurs, par exemple, quand vous analysez les titres, c'est super bien le fait que les titres soient extrêmement simples et que vous dites que ça fait partie de la confiance qui s'installe entre le pacte de lecture, entre l'auteur et les lecteurs, et qu'il n'y a jamais de surprise par rapport au titre, etc. Donc, vraiment un livre extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Laurence.
Merci.
À bientôt, on espère, pour d'autres collaborations. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent aussi, et à une prochaine émission de Pop en Stock.